Nous sommes de retour avec Marie-Christine Marinval. On parle d'histoire locale et plus précisément on parle d'archéologie. Marie-Christine, vous nous avez parlé tout à l'heure, avant la coupure, vous nous avez parlé d'archéologie préventive, vous nous avez parlé d'archéologie programmée. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on fait sur un chantier de fouille, quand on fait de l'archéologie préventive, quand on décape toute une surface de terrain et qu'on cherche des indices pour étudier ce qui a pu se passer à cet endroit-là dans les temps anciens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement tout ça ?
Alors, je partirais peut-être du fait qu'on essaie d'établir, on a une carte qu'on appelle la carte d'archéologie, où on répertorie toutes les informations, tous les indices de sites, par département. Donc ça a été commencé il y a fort longtemps. Donc on a intégré sur ces cartes les données obtenues par tous les archéologues amateurs, on va les appeler comme ça.
Donc sur toute la France.
Sur toute la France, ouais. C'est cartographié sur toute la France. Et puis au fur et à mesure, on la complète. Et lorsque un grand chantier va avoir lieu, comme par exemple la construction d'une autoroute, et nous pouvons prendre l'exemple de l'autoroute A19, donc c'est sur une bande, on va prendre une largeur de, je ne sais plus, 2 km de large, et peut-être large, je ne sais plus quelle était la bande, et sur plusieurs centaines de kilomètres parfois, et bien comme là, il va y avoir des gros travaux BTP, on va essayer de vérifier qu'il n'y a pas de site majeur archéologique sur ce secteur, et en tout cas d'en lire l'histoire avant que ça ne soit détruit. Donc l'archéologie préventive, c'est vraiment sur des terrains où tous les indices vont être arasés, enlevés les travaux.
On profite de la construction d'une nouvelle autoroute ou d'une nouvelle zone industrielle pour essayer de regarder un petit peu si on trouve des choses intéressantes.
Pour en faire une lecture.
Voilà.
Donc pour en faire une lecture.
C'est le côté bénéfique de toutes ces nouvelles constructions. On critique un petit peu trop, mais finalement, pour les archéologues, c'est intéressant.
Et donc, chaque territoire découvre son histoire, et parfois inconnue, à travers ces fouilles préventives. Mm-hmm. Donc, on peut prendre plusieurs exemples. De travaux qui ont eu lieu ces dernières années, me vient en tête les fouilles à Écrennes, par exemple.
À côté de Pithiviers.
Me vient aussi en tête les fouilles à Cher-le-Marché et à Neuville-aux-Bois. Donc, quels sont les exemples qui ont été trouvés ? Eh bien, une quantité, par exemple, vers Neuville-aux-Bois, de silos gaulois. Donc aujourd'hui, les silos à grains sont en élévation. Mm-hmm. À l'époque gauloise, c'était déjà une région très productrice de céréales, et les silos étaient creusés dans la terre. Et ce qu'on ne savait pas, c'était que quand ce silo ne servait plus de silo, eh bien, on pouvait y enterrer un humain, on pouvait y enterrer son cheval, etc.
Donc ça, c'est un exemple de pratique
de
découverte à l'époque, qui a été abandonnée évidemment aujourd'hui du fait des nouvelles techniques. Mais ça, grâce à l'archéologie, on a pu redécouvrir
grâce à l'archéologie préventive.
Et ça, avec les écrits, avec les documents d'archives, on n'aurait peut-être pas pu finalement découvrir tout ça.
Ah ben non, avec les documents d'archives, on n'aurait pas pu découvrir tout ça. Voilà. Les Gaulois n'avaient pas l'écriture, et les Romains, César a bien écrit la guerre des Gaules, mais comme tout écrit, il est écrit par une personne ou par un corps d'État ou fonctionnaire,
une administration
et avec un regard. Et on ne va pas aller parler, par exemple, s'il y avait du rat dans les champs et dans les greniers à cette époque-là. Donc là, par contre, ça va être l'archéologie qui va permettre de dire, là, le rat est arrivé, on retrouve des restes.
Et donc même sur des périodes plus récentes, comme le Moyen-Âge ou plus récentes encore, il y a de l'écrit, mais il n'y a peut-être pas forcément l'écrit qui nous intéresse, qui décrit ce qu'on voudrait qu'il soit décrit, c'est ça ?
Je prends l'exemple des quelques livres de cuisine qui existent à partir, en gros, du XIVe siècle. Il existe quelques livres de cuisine, ils ne sont pas écrits, pour le quidam, qui possède un livre, qui sait lire à cette époque-là, et donc ils sont écrits pour des élites.
D'accord.
Mais que mangeait le paysan du coin ? Et donc ça, c'est pas dans les écrits.
D'accord.
Et donc l'archéologie va apporter ses réponses.
Ok. Donc tout à l'heure on parlait d'archéologie préventive. Sur des zones par exemple de plusieurs hectares, de plusieurs dizaines d'hectares, on va être amené à décaper, à retirer une couche de terre pour voir ce qu'on peut trouver en dessous et tous les indices, c'est là qu'on va les trouver.
Voilà, si je reprends cet exemple de la comparaison du livre, à la grande différence des fouilles sur des petites surfaces qui peuvent être des fouilles, ce que nous on appelle dans notre jargon des fouilles programmées, c'est-à-dire que le terrain n'est pas menacé de construction dans 15 jours. Donc là, on a le temps de fouiller sur 3 ans, par exemple. Ça n'est pas du tout les mêmes techniques qu'on va employer si on doit décaper la longueur de l'autoroute sur plusieurs dizaines d'hectares. Et donc là, on fait appel à des engins qui ne sont pas des truelles, mais des scrapeurs, et avec des personnes qui sont, moi j'avoue, assez, ça me stupéfait à chaque fois que je les vois manipuler leurs engins, ils sont capables d'enlever centimètre par centimètre, pratiquement, une fois qu'ils ont enlevé la couche arable, pour qu'on ait une lecture à plat de la couche sédimentaire. Et donc là, on lit, l'archéologue peut lire les indices, si c'est des indices du néolithique, de l'âge du bronze, de l'époque gauloise, du Moyen-Âge. On lit des plans d'organisation de villages, de maisons.
Oui, et c'est ça qui est un petit peu délicat finalement en archéologie, c'est que moi par exemple, je ne suis pas du tout spécialisé en la matière, et je vais avoir du mal à comprendre ce que vous faites en tant qu'archéologue sur le terrain. Vous avez des techniques vraiment particulières pour les trouver, ces indices, et comprendre que finalement tel indice, ça permet de prouver, d'étudier la vie à l'époque. Et ça, c'est avec l'expérience que vous arrivez à définir tout ça.
Oui, par exemple, à l'époque du néolithique, on n'habitait pas de la même façon qu'au Moyen-Âge ou qu'aujourd'hui.
Oui,
on pouvait habiter dans des grandes maisons collectives. Et après, donc aujourd'hui, on habite dans des maisons individuelles. Mmh. Si je prends l'exemple de Beaune-la-Rolande, c'est intéressant cet exemple de fouilles qui ont eu lieu également dans le cadre de fouilles préventives dans un secteur. Eh bien, ils ont pu montrer que le plan de ce village perdure jusqu'à aujourd'hui pratiquement, parce que vous aviez en façade de rue les maisons et en arrière ce que aujourd'hui encore on appelle les ouches.
Les ouches, oui, c'est ça.
Voilà. D'accord. Donc c'était sur le même
les jardins en fait. Hein.
Le même plan. Et on a pu démontrer la présence dans l'une de ces ouches de plants de vigne. Mmh. Donc la vigne était là, il y a 2000 ans, dans la région. On a l'emplacement des ceps. Et on a retrouvé l'emplacement du chai en même temps. Donc on a vraiment toute la séquence.
Donc là, ce que vous nous décrivez là, c'était le néolithique. Hein,
Non, c'est l'époque gallo-romaine.
Ah, pardon.
L'époque gallo-romaine. Non.
Très bien.
Donc voilà cet exemple-là. Et puis, je peux citer un autre exemple où on a eu un décapage d'une surface énorme. C'est à Acher, mais au nord de Paris, qui est la zone de décantation des eaux usées. Donc je crois que c'est la plus grande d'Europe aujourd'hui. Eh bien, c'est une collègue, Séverine Hurard, qui a eu cette chance, j'allais dire, de fouiller, de décaper ce secteur. Et elle est tombée sur un entraînement de l'armée française sous Louis XIV, construction d'un camp militaire. Et c'était un entraînement. Donc là, on a les archives écrites. Elle a travaillé d'ailleurs avec l'armée, avec les généraux et toutes les données de l'armée, enfin les données de l'époque.
Les archivistes militaires.
Les archivistes militaires, ils ont été très très intéressés. Donc elle a pu retrouver exactement les plans du fort, comment la garnison était installée, comment les campements étaient faits, ils mangeaient, etc., comment ils étaient approvisionnés. Et ça a servi de modèle ensuite pour aller batailler pour de vrai sur les terrains de guerre.
Donc là, finalement, ça a été un petit peu le coup de chance. Mais est-ce qu'on peut considérer que n'importe où en France, n'importe où dans le Loiret,
Oui, ce n'était pas un coup de chance, hein, à Cher.
Non, non, non. Ah oui, d'accord.
Puisqu'on avait des écrits, on savait que
ah,
là...
Oui, pardon. Devait...
Oui. Donc, ce n'était pas un coup de chance. Mais... Par contre, sur la A19, voilà, là, c'était un coup de chance. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. Mm-hmm. Sauf si un archéologue amateur avait repéré qu'il trouvait dans les champs des tessons de sigillés, mm-hmm. par exemple, mm-hmm. où là, on pouvait dire... Il y a probablement une ancienne villa romaine. Oui. Mais sinon, beaucoup de sites sont sédimentés, mmh. c'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver à 1 ou 2 mètres en profondeur, suivant la quantité de sédiments qui est retombé sur le secteur. Donc là, on ne sait pas.
Et est-ce qu'on peut considérer que le long des axes de transport, de déplacement de l'époque, c'est-à-dire les fleuves par exemple, au bord de la Loire, à Orléans, il y avait forcément une vie à l'époque, gallo-romaine, voire plus ancienne.
Bien plus ancienne.
Voilà, et donc il y aura forcément des choses à trouver si
on trouve...
s'il y a des chantiers sur Orléans, comme ça a été le cas récemment.
Complètement, et on trouve même sur les grèves, transportées par... dégagées par l'érosion, mm-hmm. on trouve même des silex taillés de Néandertal, hein, de mm-hmm. période Néandertal. Mais même en région ici, il y a des sites néandertaliens oui. qui n'ont jamais été fouillés, mm-hmm. mais dont on retrouve en surface des outils. Mm-hmm. Par les labours, ils ont été remontés. Et notre région est occupée depuis fort
oui,
longtemps.
C'est ça, mais c'est la question que je voulais vous poser, justement. Entre Orléans et Paris... où se trouve Artenay, où se trouve Chevilly, il y a forcément eu des déplacements de personnes, de marchandises, il y a forcément eu un commerce qui s'est développé entre ces deux grandes villes, ou par exemple entre Orléans et Chartres, et donc on va forcément trouver des choses, des témoins de cette période-là.
La mondialisation existe depuis que l'humain existe.
Hein. Voilà, les déplacements de personnes, il y en a toujours eu.
Il y en a toujours eu. Mmh. Et nous sommes le résultat de ces déplacements et de ces mélanges de populations.
Mmh. On a été sédentaire au départ, on est devenu nomade et...
Ah non.
Qui... Pardon, là, c'est l'inverse. On était nomade au départ et on s'est sédentarisé ensuite.
Oui.
On a commencé à élever des animaux et, notre mode, les modes alimentaires ont changé.
Alors,
on a cueilli et on a élevé.
Oui, si vous me lancez sur cette question-là... Disons qu'il y a toute la période qu'on peut appeler la préhistoire, jusqu'à la fin de la dernière glaciation, c'est-à-dire environ il y a 10 000 ans. Mm-hmm. Donc là où on était ce qu'on appelle chasseur-cueilleur, mm-hmm. et on se déplaçait en suivant les troupeaux de rennes, hein, ici. Donc le climat n'était pas du tout le même. Et puis, à partir du début du réchauffement climatique, la période... qui est la nôtre, hein, qu'on appelle l'Holocène, mmh. et bien là, à partir du Proche-Orient, les groupes humains vont se mettre à cultiver des céréales et à élever des animaux, bœufs, moutons, cochons, et puis ben, de proche en proche, de déplacement de famille en famille, le blé arrive en pleine Beauce, en gros il y a un peu plus de 5000 ans, le mouton arrive aussi avec ces migrants ou de proche en proche en achetant
les
graines. La vigne et le vin. Alors on fait remonter de plus en plus loin maintenant l'utilisation, enfin en tout cas le pressage de raisins, mm-hmm. de raisins sauvages, hein, mm-hmm. Beaucoup plus anciennement, dès le néolithique dans certaines régions. Mais ici en Beauce, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mm-hmm. Les traces les plus anciennes correspondent au début de l'époque romaine.
D'accord. Merci. Merci Marie-Christine pour toutes ces explications. C'est passionnant. Et le temps est un petit peu limité. On n'a pas... C'est pas possible aujourd'hui de tout dire sur l'archéologie. Et donc ce que je vous propose, Marie-Christine, ce que je propose à nos auditeurs, c'est qu'on se retrouve le mois prochain où on va parler d'autres disciplines, d'autres thèmes, toujours en rapport avec l'archéologie, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et puis, vous êtes passionnante, quand on vous entend parler d'archéologie, ça donne envie d'en faire sa passion et d'en faire éventuellement son métier, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. À bientôt.
Merci.
Au revoir à tous. Au revoir Marie-Christine.
Merci. À bientôt.
Merci.